écriture alphabétique qui deviendra, j'ai allumé, qui deviendra l'hébreu et qui servira aussi ensuite, qui passera au grec, etc., et même au latin. Voilà, et ça, ça va changer complètement les choses, parce que lorsque Israël va acquérir le fer, eh bien, il va être capable de se battre contre ces Philistins, et que l'acquisition de l'écriture progressive, ça facilite la centralisation et l'établissement de petits royaumes. Parce que l'écriture, ça sert d'abord tout simplement, comme en Égypte, à lister les lieux, les populations, leurs richesses, et à faire entrer de l'argent. Pas autre chose, c'est d'abord ça, hein. On taxe et on compte combien de sacs de blé ils sont capables de vous faire rentrer. Combien... Voilà. Exactement. Alors, c'est à cette époque-là qu'on va être au moment où vont apparaître dans les livres qui racontent ça, les livres 1 et 2 Samuel, vont apparaître des rois, les premiers rois d'Israël. David et Salomon, David ayant fondé une dynastie qui, si on met David à l'an 1000 à peu près, de toute façon, la dynastie de David, elle va durer jusque en 598, ce qui fait quand même quelques siècles, hein, ça fait quand même 4 bons siècles, où son dernier descendant ira s'installer à Babylone, évidemment prisonnier, hein, sera exilé à Babylone, mais lui-même aura un fils ou des enfants dont un rentrera avec les exilés à Jérusalem et puis disparaîtra et la dynastie s'éteindra à ce moment-là, donc en fait à la fin du 6e siècle. Voilà, donc ça dure assez longtemps, hein, David, passant par Salomon. Alors, comment ça se passe? Ça nous est raconté, cette histoire royale, les premiers livres de Samuel, on en a lu un tout petit bout ce matin, ça nous est raconté comme au fond l'émergence dans l'histoire de ces tribus de la question d'avoir un roi qui rassemble et qui permette, rassemblant les forces, de combattre efficacement les Philistins et puis de s'enrichir, etc. Or, ça ne s'est certainement pas fait en un jour, ça ne s'est certainement pas fait en un seul essai, il y a certainement eu plusieurs essais, et ça n'a pas été sans poser de problème, et ensuite, pendant 4 siècles, les problèmes n'ont fait que grossir. Quand il y a une institution, évidemment, après ça, on la conteste, et on s'aperçoit qu'elle n'était peut-être pas si bonne que ça, et qu'un roi, c'est dangereux. Alors, est-ce que j'ai donné le texte? C'est pas sûr. Oui. Non. Bon. J'ai pas le texte là, et quelqu'un n'a pas une Bible?
Oui.
Et vous allez me prêter votre Bible. Comme ça, je vais vous le lire, c'est beaucoup mieux. Le premier livre de Samuel va mettre en scène donc ce juge ou prophète, on ne sait pas, il a deux figures, Samuel, merci beaucoup, qui est choisi par Dieu, appelé par Dieu, pour annoncer la fin des sanctuaires locaux, et qui va partir en quête d'un quelqu'un que Dieu lui a demandé d'oindre roi, le fameux Saül, avec des histoires un peu rocambolesques, de très vieilles histoires, là c'est probablement des textes là aussi qui remontent très haut dans la littérature orale, de recherche d'ânesse. Saül était parti à la recherche des ânesses de son oncle, et en chemin, dans une espèce de quête de ces animaux, qui ne sont pas des bêtes spécialement théologiques, va rencontrer Samuel qui va loindre roi. Voilà. Il va loindre roi. Et l'histoire de Saül est une histoire assez tragique, parce que cet homme qui avait rien fait de mal, que se faire oindre et puis devenir roi, va en fait être déchu. Et la Bible nous raconte sa folie, il devient méchant, et voilà, et après David, qui était d'abord dans son entourage, il va vouloir tuer David, poursuivre David, et même essayer de le tuer. En fait, la question est d'essayer d'expliquer pourquoi dans certains cas ça n'a pas marché, et cette dynastie s'est éteinte tout de suite, puisque Saül et son fils Jonathan meurent au combat contre les Philistins, avec une superbe élégie chantée par David au début du deuxième livre de Samuel. Hein, mais Saül et Jonathan, mes amis, mes aimés, où sont tombés les héros? Enfin, il y a un texte absolument superbe. Mais la question, c'est pourquoi il y en a, ça ne marche pas? Pourquoi il y a des dynasties qui marchent et d'autres qui ne marchent pas? Et il faut arriver à expliquer ça. Alors, en théologien d'une époque et d'un contexte, on explique ça en disant que, eh bien, Saül avait mal agi envers Dieu en trichant sur une règle de distribution du butin ou de répartition du butin. Enfin, un truc débile, hein. Mais il faut trouver une règle pour expliquer. Enfin, il faut arriver à expliquer. Expliquer et expliquer toujours théologiquement. En réalité, la vraie question qu'il y a derrière, c'est est-ce que l'institution royale est une bonne chose? Est-elle voulue par Dieu? Ou est-ce une trahison par rapport à Dieu? Et je vous lis dans le livre de Samuel, Au chapitre 8, premier livre de Samuel. Merci de votre petite Bible. Au chapitre 8, la façon dont la Bible raconte, ça c'est tardif, hein, comment le peuple demandait un roi. Lorsque Samuel fut devenu vieux, il établit ses fils comme juges en Israël. Donc déjà, Samuel, petite tendance dynastique, hein, on va mettre ses fils. Ça, c'est pas terrible. Son fils aîné, etc. Mais ses fils ne suivirent pas son exemple. Ils furent attirés par le gain, etc. Acceptèrent des présents. Bon, ceux-là, ils sont déjà corrompus. Alors les anciens d'Israël vinrent lui dire, « Tu es devenu vieux, tes fils ne suivent pas ton exemple. Eh bien, établis-nous un roi pour qu'il nous juge. » Le roi est celui qui juge. Juger, c'est faire respecter dans la Bible. Déjà, avec la demande à Abraham, respecter la justice et le droit. Donc faire respecter la loi et trancher dans les cas litigieux, c'est ça, être roi d'abord. Comme toutes les nations, être comme les autres. Cela déplut à Samuel qu'ils aient dit, donne-nous un roi pour qu'il nous juge, et il invoqua le Seigneur. Mais le Seigneur dit à Samuel, satisfais à tout ce que te dit ce peuple, car ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi qu'ils ont rejeté. Voilà. Celui qui écrit ce texte, il dit, demander un roi, c'est rejeter le Seigneur. Ne voulant plus que je règne sur eux. Tout ce qu'ils m'ont fait depuis le jour où je les ai fait sortir d'Égypte, eh bien voilà, satisfait à leurs demandes, seulement, tu les avertiras solennellement et tu leur apprendras le droit du roi qui va veiller, régner sur eux. Voilà ce que le Seigneur demande à Samuel. Et écoutez la charge que fait Samuel contre l'institution royale. Samuel répéta toutes les paroles du Seigneur au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, voici le droit du roi qui va régner sur vous. Il prendra vos fils et les affectera à sa charrie, à ses chevaux, et ils courront devant son char. Il les emploiera comme chef de mille, chef de cinquante. Il leur fera labourer son labour, moissonner sa moisson, fabriquer ses harnes de guerre et les harnais de ses chars. Il prendra vos filles comme parfumeuses, cuisinières, boulangères et le reste. Il prendra vos champs, vos vignes, vos oliviers les meilleurs et les donnera à ses officiers. Il prélèvera la dîme, la donnera à ses eunuques et à ses officiers. Il prendra les meilleurs de vos serviteurs, de vos servantes et de vos bœufs et de vos ânes. Il les prendra pour travailler avec lui. Il prendra la dîme sur vos troupeaux et vous deviendrez ses esclaves. Ce jour-là, vous pousserez des cris à cause du roi que vous serez choisi, mais le Seigneur ne vous répondra pas ce jour-là. Le peuple refusa d'écouter Samuel. Non, nous aurons un roi et nous serons aussi, nous, comme toutes les nations. Et Dieu dit à Samuel, eh ben, satisfais-les, donne-leur un roi, ils vont voir. Mais voyez, ce qui est intéressant, c'est quand on raconte l'histoire, au fond, on la raconte pour mettre en cause et en débat l'institution royale. Faut-il avoir un roi pour être comme tous les peuples, et puis parce que ça sert à se battre contre les autres, etc. Ou est-ce qu'avoir un roi, n'est-ce pas trahir la fidélité à Dieu qui est l'unique roi? Et puis avoir un roi, eh ben, une fois qu'on a, pendant un siècle ou deux, vu ce que ça donnait dans le détail de la vie quotidienne, on en a beaucoup moins envie, évidemment. Et on voit là des gens qui critiquent, et c'est la critique prophétique tout le temps, l'institution royale. En même temps, Samuel va aller chercher David. Alors il y a aussi plusieurs histoires où David est un roi différemment. Il y a au moins trois histoires qui se recoupent, parce qu'il y a des légendes qui viennent du passé. David... on n'a aucune trace historique. Hein. La seule trace historique, elle est la première trace historique, elle est sur la stèle de Dan, qui doit dater de 800 ou 820, où on parle à propos du pays, dans le nord du pays, de la maison de David, Beth David, la maison de David, pour dire la royauté, les rois qui règnent ce pays. On est autour de 820, c'est-à-dire qu'on est au moins 150 ans ou peut-être 200 ans après le moment où on situe David. Sinon, on n'a aucune trace historique, dans aucune annale de roi avoisinant. David, c'est la figure du roi voulu par Dieu, et on dira de Jésus, il est fils de David, et donc fils de Dieu, et David dira, Dieu dira à David, tu es mon fils. Historiquement, oui, il y a bien eu une dynastie de David qui, au moins à partir du 9e siècle, a régné sur le... Après, ça sera uniquement le sud d'Israël. D'accord, oui. Mais... David est quand même là, bien présent dans le souvenir, dans les légendes, et avant même de mettre en scène l'onction de David, on a posé la question, est-ce qu'un roi peut être un bon roi, et est-ce qu'il est juste qu'Israël, qui est le peuple de Dieu, ait un roi? On met en cause l'institution, le pouvoir, enfin, il y a une critique du pouvoir qui est très très forte là derrière. Alors après, vous allez voir effectivement apparaître ce malheureux Saül, l'histoire de David, qui est une histoire merveilleuse et rocambolesque, avec, ça sera pareil pour Salomon, mais c'est plus marqué pour David, l'espèce de liberté avec lequel le texte biblique, et donc ce texte qui est fait de pièces et de morceaux, il faut vraiment toujours s'en souvenir, traite d'une figure qui est pourtant une figure, une haute figure. Voilà, nous on dira, je ne sais pas, je vous disais tout à l'heure, Clovis ou n'importe lequel, voilà, Henri IV par exemple. Eh bien avec une grande liberté. Au fond, quand on regarde bien le texte, David, ça a été un chef de bande génial, sûrement un chef de bande, hein, pas plus, capable du meilleur et du pire. Et le texte n'efface pas le pire. David a été celui dont certainement, alors lui ou celui qui porte le nom de David, mais c'est pareil, hein, l'homme qui porte le nom de David, celui qui a été capable de rassembler et d'être suffisamment stratège et malin pour chasser au maximum et repousser les Philistins qui n'avaient plus que quelques accès et comptoirs sur la côte, mais sortis du pays, donc il a vraiment été capable de vaincre les Philistins, et pour ça, il est prêt à tout. C'est-à-dire qu'il va se vendre aux Philistins. Il se fait passer pour un général philistin. Les Philistins l'envoient battre des villes appartenant aux tribus d'Israël. Et là, il fait disparaître les soldats des Philistins. Donc il se fait passer pour un des leurs et puis il les détruit sur place. Enfin, c'est quand même pas... c'est des méthodes qui existent. Je dis pas, mais enfin bon, c'est pas particulièrement recommandable. Après, David, c'est un drôle de... gars qui en même temps respecte Saül, puisqu'à deux reprises, il pourrait le tuer alors que Saül s'est relevé contre lui. Mais ne le fait pas, il pleure la mort de David, de Saül et de Jonathan. Il va avoir un coup de génie certainement, c'est de se choisir une capitale qui n'appartient à aucune tribu, comme ça il n'y a pas de jaloux. Jérusalem, qui est une capitale jébusite. Alors vous allez dire, il a pris la ville de quelqu'un d'autre. Oui, bah, elle était sans défense, la ville, elle était à disposition. En tout cas, il y a une mise en scène de la montée de David à Jérusalem, et puis il y a une série d'histoires autour de David qui à la fois le grandissent et à la fois ne l'épargnent pas. Et l'histoire la plus nette à ce sujet, c'est ce qu'on a appelé la faute de David, c'est le fait qu'il a pris à son général Uri sa femme Bethsabée. Ça va quand même très loin. Il s'empare de Bethsabée parce qu'il l'a aperçue en train de se baigner pendant que l'autre est au combat. Et quand elle est enceinte, il fait revenir l'autre. Il essaye d'envoyer l'autre à sa femme pour faire croire que le fils sera d'Uri. Et comme Uri ne veut pas, parce qu'on ne va pas se battre quand on est un homme de guerre et qu'on ne va pas aller coucher avec sa femme quand on est un homme de guerre, on reste pur et fort pour la guerre, il envoie Uri se faire tuer dans les premières lignes, là où il sait qu'il n'en réchappera pas. C'est pas terrible quand même. Hein, non mais attendez... Il n'est pas seulement adultère et machin, mais enfin il est criminel et il fait tuer le type de façon atroce en l'envoyant en première ligne se faire descendre quand même. Voilà, c'est David. Et en même temps, c'est... Mais oui, mais voilà, c'est ça que la Bible est merveilleuse. En même temps, vous avez... Alors, l'histoire de Bethsabée, ce qui est très intéressant aussi, c'est que, évidemment, le livre des rois la raconte largement. Un roi 12 avec le prophète Nathan qui vient faire repentir David. Il y a une très belle parabole et puis David se repent, etc. La punition de Dieu, puis David qui reprend du courage. Finalement, Bethsabée aura quand même un fils et ça sera Salomon. Et après, elle va aussi se débrouiller pour écarter les autres fils de David qui avaient une tripotée de femmes et de fils. Hein. Voilà. Donc, il y a des histoires humaines, très humaines, épouvantablement humaines. Et en même temps, c'est à travers ces histoires épouvantablement humaines que le récit dit que Dieu mène son chemin d'alliance avec le peuple et qu'il fait avancer son peuple, même si l'institution royale, ça pose question. Alors, ça c'est raconté dans les livres de Samuel et surtout des rois pour David. Mais il y a dans la Bible un doublé des livres de Samuel, tardivement, certainement après le retour d'exil, il y a eu un essai de reprise de toute l'histoire d'Israël, toute l'histoire royale, dans ce qu'on appelle 1 et 2 chroniques, les livres des chroniques. Vous ne les lisez pas tous les matins. On ne les lit jamais. C'est très simple, on ne les lit jamais. C'est mortellement ennuyeux. C'est mortellement ennuyeux. C'est au contraire des récits passionnants, parce que plein d'anecdotes, de vieilles légendes, d'histoires humaines de Samuel et Roi, c'est quand même un compte-rendu très factuel, des nombres, des chiffres, des batailles, des rois qui font ce qui est mal aux yeux du Seigneur et qui meurent et qui se couchent, etc. C'est pas drôle du tout. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça reprend la même histoire. Et que du livre des chroniques, l'histoire de Bethsabée a disparu. On ne sait pas de qui Salomon est le fils. Après David, il y a Salomon, et c'est très bien comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on voit bien qu'il y a, là aussi, il y a des conflits. Il y en a qui veulent blanchir la figure de David. Mais oui, c'est le fondateur de la dynastie, il faut arriver à ils essayent de garder l'image magnifique, et puis peut-être d'avoir encore un dernier descendant de David qu'on pourrait mettre sur le trône. Donc, bah, on nettoie le livre d'histoire et on reconstruit une histoire comme il faut, propre, voilà. Mais c'est beaucoup moins intéressant. N'empêche que l'intérêt, c'est que tout ça est gardé dans la Bible. Vous voyez, on garde les deux. L'ambiguïté des choses humaines et le fait que bah, plusieurs interprétations, plusieurs lectures sont possibles. Vous pouvez trouver que David est odieux. David, c'est aussi celui qui est capable de s'humilier devant l'arche de Dieu qui monte à Jérusalem. C'est aussi un père qui se fait complètement bafouer par son fils Absalom, hein, qui essaye de lui prendre le pouvoir et qui lui prend toutes ses concubines. Et qui va se battre contre son fils Absalom, il y aura de vrais combats. Et puis quand Absalom meurt, David s'enferme et pleure pendant 8 jours ou 10 jours. Mon fils Absalom, j'aurais dû mourir à ta place. Voilà. Il y a une espèce de faiblesse de David qui est aussi très 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 sympathique. Enfin, il y a quelque chose de très très humain. Moi, je trouve ça très fort d'arriver à construire un personnage comme ça, tout le temps autour de cette idéologie royale. Alors après David, deuxième personnage. Bien, alors David a été considéré comme c'est le roi qui chante devant l'arche et que c'est un roi musicien puisque avec sa musique il calmait les fureurs et la folie de Saül. David a été considéré comme celui qui a réécrit les psaumes. Une bonne partie des psaumes, pas tout mais un bon tiers des psaumes, s'intitule psaume à David ou de David. Bon, peut-être qu'il y a des pièces de musique qui sont de David, j'en crois, je suis pas sûre et même j'y crois pas du tout. Mais on a toujours rapporté les psaumes, et là, qui étaient psalmodiés, hein, qui étaient chantés au temple, ou en tout cas accompagnés de musique, à David. Son fils Salomon, dont l'attestation historique est absolument nulle, aucune trace en dehors de la Bible du roi Salomon, ce qui est quand même assez impressionnant. L'histoire commence quand on peut croiser deux sources, au moins 2 ou 3 sources différentes. Hein. On ne croise rien du tout. N'empêche que la Bible donne de l'importance énorme. Et il semble bien qu'effectivement, ce début du 10e siècle, jusque vers 930, donc de 1000 à 930 ou 1960 à 930, qui correspondrait au règne de Salomon, a été un règne de développement économique important du petit pays qui s'était constitué avec l'alliance en regroupant les tribus du nord et les tribus du sud. David était du sud, mais il est allé se faire élire au nord, qui était plutôt le pays de Saül, donc on avait regroupé un certain nombre de tribus, de groupes, et là il y avait un vrai développement économique, probablement lié à l'affaiblissement concomitant de la Syrie. Quand les grands empires autour s'affaiblissent, on paye moins d'impôts, et s'il y a en même temps quelques bonnes années, quelques bonnes récoltes, et un roi intelligent qui fait un peu de commerce, on s'enrichit beaucoup. Donc un développement économique important et une ère qui a été considéré comme qui a laissé souvenir d'une ère de prospérité, c'est-à-dire Salomon. Salomon est considéré comme celui qui a construit le magnifique temple de Jérusalem. Il a dû construire un petit temple, mais qui ensuite a été embelli beaucoup plus tard. Et comme le roi sage qu'on venait consulter du monde entier, à tel point que la reine de Saba vient le consulter. Bon, la reine de Saba, en fait, elle a vécu quand même au moins 2 siècles plus tard. C'est pas grave. Non, mais c'est la figure, là. Parce que David, c'est le roi, finalement, très humain, séducteur, le roi qui chante la louange de Dieu. Et Salomon, c'est un peu la figure beaucoup plus idéale du roi sage, mais qui, du coup, et du roi qui n'a pas de défauts, mais qui du tout qui va très mal finir. Parce que finalement, il multiplie les femmes et il va sombrer plus ou moins dans l'idolâtrie. Là aussi, il y a une charge. Il y a à la fois une idéalisation, c'est très étonnant, de la figure royale avec Salomon, et puis il y a une charge contre cette idéalisation. C'est marqué. On voit bien qu'on critique très fort cette institution royale en même temps qu'on la magnifie et qu'on raconte ses débuts, et puis qu'après tout, c'est quand même la dynastie qui a tenu le coup. Voilà. Alors, Ce que j'ai dit, c'est que, et mal dit, il faut que je le redise, c'est que David avait quand même aussi probablement fondé sa réussite sur le fait que venant du sud, de la tribu de Benjamin, Benjamin et Judas, c'est le sud autour de Jérusalem, il avait su gagner à sa cause des tribus plus au nord, qui avaient été plutôt des tribus de Saül, liées au roi Saül. Mais celui-là était mort avec son fils, donc il n'y avait plus de descendance. Et il était allé aussi se faire élire là-bas, se faire acclamer là-bas. Et donc il avait quand même rassemblé, fait une première unité, première union, de l'ensemble de, peut-être pas 12 tribus, mais un certain nombre de tribus au nord et au sud. Et ça va continuer sous Salomon. Mais ça ne va pas durer longtemps. Ça ne va pas durer longtemps. Et des tensions sont certainement apparues très très vite. En tout cas, on date d'à peu près 930, peut-être 900, donc vous voyez que ça ne dure pas 70 ans, quoi, peut-être deux rois, David et Salomon. Le moment où, au fond, on n'a plus un seul royaume, mais deux royaumes séparés. Et très vite, il s'est en fait séparé deux royaumes. La tension étant déjà présente, puisque les uns c'était quand même ceux autour de David, les autres déjà autour de Saül. Parce qu'au fond, David, même s'il a choisi une capitale, Jérusalem, qui n'appartenait à personne, elle est quand même au sud. Voilà, et qu'au fond, les amitiés fortes de David et Salomon étaient au sud et qu'ils ont dû certainement privilégier leurs proches, comme on le fait souvent quand on est au pouvoir. Si bien que, et ça se vérifie, alors, à partir du 9e siècle, c'est-à-dire à partir de l'an, j'allais dire, 900, 890, on descend les années, hein, puisqu'on est avant Jésus, donc. À partir du 9e siècle, on va commencer à être documenté par des annales extérieures. Des annales, c'est-à-dire des espèces de chroniques des successions et de la, des succès et défauts, des fêtes des rois dans les royaumes environnants, notamment en Assyrie. Et on va avoir des annales assyriennes, plus ou moins complètes évidemment, plus ou moins fragmentaires, mais qui vont commencer à documenter la période et donc on va pouvoir croiser avec la Bible. Et là, on entre vraiment dans quelque chose qui est fragmentaire, difficile, mais on entre vraiment dans l'histoire. On peut croiser les sources. À ce moment-là, c'est l'histoire. Eh bien, on voit qu'à partir de ce moment-là, donc la fin du Xe siècle, on a vraiment deux royaumes séparés. Un royaume, alors ça se complique un peu, vous allez essayer de voir, un royaume du nord à droite, qui s'appelle Israël, avec une capitale qui n'existe pas encore, qui sera construite au milieu du 9e siècle, vers 850, Samarie, et un royaume et qui regroupe quelque chose comme 10 tribus, toutes les tribus du nord, donc plus grand, et un royaume plus petit au sud, qui va s'appeler le royaume de Juda, avec pour capitale Jérusalem. Au sud, c'est bien la descendance de David, le fils de Salomon, qui va régner, et la descendance de David va régner pendant 400 ans, jusqu'en 598, tandis que de l'autre côté, ce sont des généraux ou des hommes de guerre qui se sont soulevés à la fin du royaume de Salomon, probablement parce qu'il est taxé trop, qu'il y avait trop d'impôts, et qui ont, l'un d'entre eux, a fini par fonder son propre royaume. Donc dans l'Israël, le pays qui va s'appeler Israël, le pays du Nord, on l'appelle le royaume du Nord et le royaume du Sud, capitale Samarie, il est clair qu'on n'a plus la dynastie de David, ça va? Voilà, à partir de 900. Alors, là il y a une vraie difficulté de vocabulaire, parce que vous voyez que le royaume du Nord va prendre le nom d'Israël, avec comme ancêtre tutélaire Jacob, qui va prendre aussi le nom d'Israël, et qui va garder, au moins pendant un certain temps, les traditions de Moïse. Le royaume du Sud va prendre le nom de Juda, parce qu'en fait il est formé de deux tribus, la tribu de Juda, dans laquelle se trouve Jérusalem, même si la ville n'appartenait pas aux gens de la tribu, et la petite tribu de Benjamin. Il n'y a que deux tribus, hein, 10 d'un côté, 2 de l'autre. Un royaume plus petit. La difficulté vient de ce que, quand vous parlez d'Israël, des fils d'Israël ou des Israélites, vous pouvez, suivant les textes et les contextes, soit entendre l'ensemble, ou avant la séparation, les fils d'Israël qui passent la mer Rouge, etc., ou même après on s'adresse à Israël, aux enfants d'Israël, Et à ce moment-là, c'est l'ensemble. Et puis, le pays va, au fond, on va se reconnaître pendant longtemps, jusqu'à l'exil, comme appartenant, au fond, à ce groupe des Israélites. Ou bien, avec Israël, vous pouvez ne désigner que le royaume du Nord. Que le royaume du Nord. C'est pas toujours facile de voir de quoi on parle. Et souvent, dans les textes prophétiques, par exemple, qui ont d'abord s'adressé au royaume du Nord, les gens du Sud ont glissé « Toi aussi, Judas ». Vous voyez, un texte prophétique qui dénonce qu'il va mal en Israël, vous allez trouver un paragraphe après, « Et toi aussi, Judas ». Donc on s'adresse aussi au royaume du Sud. Dans toute la période royale, c'est effectivement le royaume du Sud qui va prendre ce nom de Judas, et on parlera même des Judéens, et le royaume du Nord qui va garder le nom d'Israël. Le mot de Juif, qui au fond est simplement le mot judéen, les gens du royaume de Juda, va donc exister. Alors il est grec le mot, hein, il est grec, il n'est pas dans la Bible hébraïque. Il va donc exister en grec à partir de l'exil à Babylone, pour au moins les attestations grecques que nous avons, et après, au retour, on va beaucoup plus en parler effectivement des Juifs, des Judaïoles, hein, quand ils vont se réinstaller, parce qu'eux l'entendent judéen et pas juif. Nous, on a mélangé, enfin, on a distingué judéen et juif. Pour eux, c'était la même chose, parce que tous les judéens devaient être juifs, mais tous les juifs ne sont pas judéens. Donc, on a mélangé les choses. Donc, il y a des difficultés de vocabulaire auxquelles il faut être un peu attentif, parce que un même mot peut désigner des groupes différents. Alors, si vous voulez bien, à partir de là, on va essayer de suivre l'un et l'autre royaume, l'un et l'autre royaume avec les événements historiques et la littérature qui est adjacente. Attendez. Oui, voilà. Le royaume du Nord, je reviendrai en arrière. Mais voyez, le royaume du Nord, c'est Israël, c'est à droite, Samarie, etc. Le royaume du Nord, donc il apparaît en 930 et il va disparaître en 721. Donc il dure pas longtemps, 200 ans. 210 ans. C'est un royaume qui d'abord est dirigé non pas par des descendants de David, mais par des généraux, des chefs de guerre. Et donc il va y avoir tout le temps une instabilité dynastique, parce qu'au fond, ça se réglera à coups de pronunciamento, hein, des coups d'État qui vont remplacer tel ou tel. Ils vont passer leur temps à se destituer et à s'entretuer. La capitale, c'est un des rois qui va être le plus longtemps à la tête du royaume du Nord et qui va avoir une dynastie qui va durer quand même au moins 70 ans, c'est le roi Omri, dont la Bible ne parle que peu et dont elle dit beaucoup de mal parce qu'il était probablement très peu attaché au Dieu d'Israël et très idolâtre et très lié finalement au Dieu de la nature et au Dieu qui venait d'Assyrie et d'ailleurs. Donc la Bible minimise au maximum ce que fait le roi Omri, alors qu'en fait, c'est quand même, on le sait par les annales assyriennes, c'est quand même lui qui a fondé Samarie, la capitale, et c'est lui qui est considéré, et sa dynastie, qui est considéré par l'environnement assyrien comme le partenaire. Voilà, le partenaire. Je peux vous montrer un bas-relief, où on voit le roi Omri à genoux par terre, dans une attitude évidemment d'homme asservi, qui vient rendre hommage au roi assyrien. Omri, bien sûr, a rendu hommage à la Syrie. Il faut dire que la menace assyrienne, après un temps, début du Xe siècle jusqu'à la fin, jusqu'à 930, d'affaiblissement, les Assyriens vont reprendre du poil de la bête. Donc la menace assyrienne se remet à croître et ils n'ont qu'une idée, manger les royaumes d'abord de Damas et puis ensuite le royaume du Nord, voilà, manger tous ces petits pays, ils vont progressivement descendre. Donc, Omri arrive à sauver la mise en payant tribut et en venant se prosterner devant le roi d'Assyrie. Vous le voyez ici, c'est une stèle certainement très ancienne, je ne sais pas sa date, mais on reconnaît bien les attributs, ça ressemble aux stèles égyptiennes. C'est un pays riche, ce pays du Nord, et je vous l'ai dit ce matin à propos du prophète Amos, ce pays est surtout dirigé par des grands propriétaires qui vont exploiter les autres. La Bible, elle, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, excusez-moi, je suis allée trop vite, elle ne parlera pas beaucoup d'Omri, elle parlera beaucoup de Jéhu. J'ai eu, c'est un autre général qui, lorsque la dynastie d'Omri s'affaiblira, tuera le roi précédent et prendra sa place. Historiquement, il n'a certainement pas fait des choses très extraordinaires, il a plutôt été un mauvais roi, mais comme c'était un serviteur du Dieu d'Israël, la Bible au contraire le monte en épingle. Voilà. C'est pour vous montrer là la différence entre, au fond, ce qu'on sait par la Syrie et ce qu'on sait autrement. Voilà. Il ne fera pas grand-chose et il favorisera de façon éhontée la cour sur laquelle il règne, c'est-à-dire les grands propriétaires qui exploitent la situation, donc avec à la fois un enrichissement du pays, mais un appauvrissement de la population, ça c'est sous la domination de Jéhu et de ses descendants. Il va y avoir à un moment donné, et là on a le témoignage du prophète Isaïe, donc Isaïe qui commence très tôt, vers 734, on a un premier témoignage du prophète Isaïe, il va y avoir à un moment donné la menace assyrienne qui s'accentue, qui pèse effectivement sur le royaume de Damas et sur le roi du Nord, et on va avoir à un moment donné le roi de Damas et un autre petit roi Ptolé à côté qui vont décider de entraîner avec eux le royaume du Nord contre l'Assyrien. Et donc le roi de Damas, le royaume du Nord, le roi du Nord, la descendance de Jéhu, accepte. Et il se lance, ces rois, dans un soulèvement contre l'Assyrien. Évidemment, ça se termine très mal. Et pendant ce temps, le royaume du Sud, donc la descendance de David, c'est le roi Akkad, le royaume du Sud est terrorisé. D'autant que, évidemment, les petits rois en révolte ont envoyé des ambassadeurs pour dire « Venez avec nous, on va tous s'unir et on sera très forts. Plus on est ensemble, plus on est fort, c'est bien connu, ça se dit dans les rues. » Bon, voilà. Et c'est Isaïe qui calme le jeu. Et vous avez le chapitre 7 d'Isaïe, qui calme le jeu en demandant au roi Akkad de ne pas s'embarquer dans une affaire pareille, et en disant que non, qu'il faut tenir bon, qu'il faut refuser, ne pas avoir peur, même de ces deux trublions, ils les appellent des brandons là, qui essayent de mettre le feu partout, se soulever, c'est aller à la catastrophe. C'est aller à la catastrophe parce qu'on sera écrasé par la Syrie. Et donc, on voit intervenir là Isaïe 7, c'est à ce moment-là qu'il va annoncer la naissance, le Seigneur va te donner un signe, et c'est la naissance d'un descendant de ce roi Akkaz, le roi Ézéchias, un jeune enfant qui va monter bientôt sur le trône et qui sera bien meilleur stratège et roi que son père, et que Isaïe va soutenir. C'est là que vous avez la prophétie, la jeune reine va enfanter, et on appellera cet enfant Emmanuel. C'est un encouragement au roi du Sud pour qu'il ne se rallie pas à la révolte que mène le roi du Nord et Damas contre les Assyriens. Il vaut mieux leur payer tribut que de céder, que de se révolter contre eux. Parce que ça se termine toujours très mal, ils savaient la force de la Syrie. Donc effectivement, ceux du Nord se sont révoltés et ils ont été écrasés assez rapidement, de langue peut-être par morceaux, par étapes. La Syrie a commencé par leur demander un tribut un peu plus lourd, et puis on a vécu quelques temps comme ça, et puis finalement il y a eu une nouvelle révolte, et en 721, les Assyriens en ont assez, c'est le roi assyrien, je crois que c'est un Sennachérib quelconque, qui attaque Samarie, détruit Samarie et déporte toute la population. Et installe là des populations dont il a envahi le pays ailleurs. C'est vraiment un échange de populations qui est terrifiant. Alors, au point de vue, voilà, disparition du royaume du Nord, c'est fini, hein. On n'en entendra plus jamais parler. Ça donnera beaucoup plus tard la Samarie, dont vous entendez parler dans l'Évangile, qui est située donc au nord de la Judée et au sud de la Galilée. La Judée-Galilée s'étant rapprochée, la Samarie va rester comme un corps un peu étranger. Il y a une espèce de combat, de haine du frère entre les Judéens et les Samaritains. Vous vous rappelez la Samaritaine, on ne parle pas à une femme, mais encore plus une femme samaritaine. Et dans l'Évangile, c'est toujours le Samaritain qui est le bon, alors qu'en fait, c'est celui qu'on déteste. Mais en fait, les Samaritains restent aussi des frères parce qu'ils croient au même Dieu. Cette région-là, même si c'est des populations extérieures qui sont venues, va garder la foi au Dieu, seulement ils auront leur temple sur le mont Garizim, etc. Ils n'ont pas la centralisation du culte à Jérusalem. Donc, en tout cas, pour le moment, elle disparaît de l'histoire, la région. Elle disparaît de l'histoire. Et elle a quand même donné, quoi ? Des grands prophètes. Alors, en fait, on les appelle des petits prophètes. C'est des grands prophètes pour moi, ce sont des petits prophètes d'après ce qu'on en dit. Ils font partie des 12 petits prophètes et ce sont les deux premiers, pas toujours classés comme les deux premiers, premier et troisième, peu importe, Osée et Amos, qui sont des prophètes dont le livre est court, 9 chapitres pour Amos, 13 pour Osée, et qui vont dans le royaume du Nord essayer de dénoncer, on l'a vu avec Amos, la fracture sociale et rappeler, au fond, à la foi, le culte du Dieu, qui n'est pas encore le Dieu unique, mais qui est le Dieu d'Israël, un Dieu qui déjà demande le souci du pauvre, de l'orphelin, de la veuve et l'attention aux plus petits. Déjà, il y a cette exigence qui va venir parce qu'on a aussi dans ce pays une tradition qui vient de la loi de Moïse. Donc, on va voir ces deux grands prophètes. Et là, je voudrais dire un mot des écoles prophétiques et de cette tradition prophétique et cette levée de prophètes qu'on appelle des prophètes écrivains, puisqu'on a leurs traces, ou en tout cas leurs écoles et leurs disciples ont mis par écrit leurs oracles, ils les prononçaient. Hein. Peut-être certains les ont écrits, en tout cas Jérémie certainement. Mais bon, on mettait par écrit après. Et c'est la fonction du prophète qu'il faut ici bien bien voir. Le prophète donne l'impression de prévoir l'avenir. Mais quand Amos dit « Si la bande dévotrée continue à ne rien faire, à s'enrichir et à désespérer le peuple, eh bien le peuple se soulèvera, il rejoindra les Assyriens et vous serez écrasés. » Il annonce effectivement la déportation. Après, c'est facile d'introduire dans son texte « Ils seront déportés. » Il n'annonce pas l'avenir, c'est pas Madame Soleil. Les prophètes sont des hommes qui ont une analyse politique, souvent très pertinente de la situation. Parfois des analyses différentes et on se bat entre prophètes. Très pertinente de cette situation et qui toujours dénoncent le manquement à la foi au Dieu unique, à la foi au Dieu d'Israël, et toujours aussi qui dénoncent les manquements et les fautes dans la relation avec les autres. Donc tout ce qui est de l'ordre du mépris de l'autre, qui découle et qui est lié souvent à l'abandon de cette foi au Dieu unique. Il y a toujours ces deux versants dans le prophète. Il dénonce le fait qu'on n'est pas fidèle au Dieu, qui va devenir le Dieu un, mais qui est le Dieu pour le moment du pays, et qu'on n'est pas fidèle à la loi de ce Dieu, qui est que le roi doit faire régner le droit et la justice, surtout envers les faibles et les pauvres. Et ça, c'est constant. Dans tous les prophètes, là on est les deux prophètes du Nord, Amos et Osée, mais on va le retrouver dans tous les prophètes du Sud. Bon, il faut bien garder ça en tête, deux choses dans les prophètes, hein. Rappeler la fidélité au Dieu d'Israël et rappeler son corrélat qui est la justice et le droit envers les pauvres et les plus faibles. Ça va toujours ensemble. Et évidemment, ça ne plaît pas au roi. Et c'est pour ça qu'il y a des tensions permanentes, même si Isaïe sera un grand personnage de la cour qui saura en imposer à son roi. D'où elle vient cette idée que la fidélité au Dieu unique, elle est corrélative, nécessairement liée au respect de la justice et du droit, et donc du droit du plus faible? Eh bien, elle vient des traditions qui sont présentes dans ces tribus du Nord et qui viennent de ceux qui sont peut-être dans un lointain passé venus d'Égypte. Ce qui se réclame en tout cas de Moïse et de la loi de Moïse. On voit apparaître dans ce pays du Nord des gens qui sans arrêt se réclament de Moïse et de la loi de Moïse. La fin du livre d'Osée montre qu'il y a une grande supériorité du prophète, il appelle Moïse un prophète, que Dieu a fait lever et qui a fait revenir celui que Dieu aime, son fils d'Égypte, je ramènerai mon Dieu d'Égypte, grande supériorité de Moïse et de l'alliance avec Moïse, même sur Jacob, qui quand même n'est pas un type tellement bien, il a servi pour une femme, il a trahi, il a effectivement trompé son frère, supériorité de Moïse. Ces pays du Nord, ces tribus du Nord, ont gardé un souvenir fort de l'Exode, et ils en ont gardé surtout des éléments qui vont former la loi de Moïse dans le Deutéronome. C'est probablement dans ces régions du Nord que des scribes ont commencé à mettre par écrit ce qui fera le cœur du Deutéronome, au moins dans la dernière moitié du 8e siècle. Voilà. Et donc, la loi du Deutéronome est une loi à la fois très identitaire autour de la fidélité au Dieu un, et une loi très ouverte sur la protection de l'autre, l'étranger, l'immigré, la veuve, l'orphelin, le pauvre et la justice sociale. Très étonnant à ce point de vue de Théronome. Voilà ce qui donc se trame dans le royaume du Nord pendant les deux siècles où il a vécu. Alors maintenant, le royaume du Sud, parce qu'il faut le retrouver celui-là. Et là, c'est la dynastie de David qui va être une dynastie stable avec une capitale tout de suite, Jérusalem, deux petites tribus, un pays pauvre, sans cesse menacé aussi par la Syrie, mais on peut dire qu'il y a l'État du Nord qui fait tampon pendant un certain temps. Voilà, c'est les autres qui prennent les coups. Et donc il va être tenté parfois de se révolter, mais des grands prophètes comme Isaïe vont dire « Non, on ne se révolte pas, on paye le tribut et on se tait ». Et cette dynastie stable va donner une succession, et on voit bien là le débat autour de la royauté, de rois qui seront considérés par l'avenir comme des grands rois réformateurs religieux et des rois qui seront considérés comme des rois idolâtres et donc que Dieu a puni, et c'est pour ça que la dynastie va mal tourner. C'est pas vrai, mais en fait c'est comme ça qu'on le lit. Alors, ça commence, il y a une tradition de royale, et puis on les voit à travers le premier livre d'Isaïe, le premier prophète Isaïe, à l'époque dont je vous parlais, au moment où la Syrie va tomber, où le royaume du Nord va tomber sous les coups de la Syrie, avec le roi Akaz. Et c'est là qu'apparaît en 716 ce fils d'Akaz, que le texte d'Isaïe appelle l'Emmanuel, Dieu avec nous, et dont il dira des merveilles, le jeune Ézéchias, parce qu'il est associé au trône très jeune en 716, qui va régner très longtemps. Si vous faites le calcul, 716-687, ça fait 13 et 16, 29 ans, c'est beaucoup. Et donc, il va assurer une certaine prospérité à ce royaume du Sud, mais surtout, qui va tenter une réforme religieuse poussée par Isaïe, et qui va surtout résister à l'Assyrien. Parce que cela, évidemment, maintenant que le royaume du Nord est complètement occupé et est à leur merci, ils n'ont plus qu'une idée, c'est prendre celui du Sud pour avancer vers l'Égypte, évidemment. Et donc, on a le roi assyrien Sennachérib qui, dans ses expéditions lointaines, à un moment donné, se dit que le verrou du Sud, ça le gêne et qu'il faut prendre Jérusalem. Et il va venir mener mettre le siège autour de Jérusalem. C'est raconté à la fois dans le deuxième livre des rois et dans les chapitres 35, 36, 37 ou 37, 38 du prophète Isaïe, qui raconte à peu près la même chose. Et on voit Isaïe intervenir pour pousser Ézéchias à ne pas céder, à dialoguer, etc., et maintenir ce royaume en face du roi assyrien Sennachérib sans se faire entièrement détruire. Et là, il y a un épisode assez intéressant, c'est que ce que la Bible nous raconte, c'est que Ézéchias ayant tenu bon, au moment le pire où la ville va vraiment tomber, on se lève un matin et l'ange du Seigneur avait mis la peste dans le camp des Assyriens qui étaient morts ou qui s'étaient enfuis. On a gagné. Alors c'est intéressant parce que vous avez le même fait qui est raconté dans les annales assyriennes. Mais là, c'est pas raconté pareil. On vous explique que Sennachérib était bien aux portes de Jérusalem, qui était quand même une conquête importante, mais pas minime, et puis il l'aurait toujours un jour ou l'autre. Et qu'il y a eu, dans son palais en Assyrie, à Ninive, il y a eu un essai de coup d'État. Ses fils ont essayé de prendre le pouvoir. Alors, Jérusalem... C'est pas grave, non, bougez surtout pas, c'est très bien comme ça. Jérusalem, c'est bien, mais Ninive, c'est quand même mieux. Et donc, Sennachérib s'était dit qu'il reviendrait un jour à Jérusalem et était parti en courant pour régler les affaires et assurer son pouvoir à Ninive. Voilà, il y a deux lectures différentes. Ou c'est l'ange du Seigneur qui a sauvé la ville en lançant la peste dans le camp des Assyriens, ou c'est les fils de Sennachérib qui ont sauvé la mise en tentant un complot contre leur père. Vous pouvez choisir. Voilà comment on raconte l'histoire. C'est intéressant. En tout cas, évidemment, ça grandit le roi Ézéchias et ça assure évidemment un mouvement de ferveur autour de la foi au Dieu qui les a sauvés, le Dieu d'Israël. Et donc il y a une image du roi Ézéchias qui reste une image très positive. Les rois suivants le sont moins, Et on va avoir un second roi dans ce royaume du sud qui va avoir une très belle image aussi, mais qui va se terminer très mal. C'est le roi Josias, un roi qui monte très jeune sur le trône en 640 et qui va mourir à 36 ans, donc pas du tout vieux, en 609, alors qu'il avait assuré une vraie prospérité du pays et même un certain agrandissement du pays vers le nord. Ce qui marque la royauté de Josias, c'est le récit que fait la Bible de d'abord du travaux qu'il entreprend dans le temple pour embellir, réparer, embellir et magnifier le temple de Jérusalem à la gloire du Dieu unique, et une réforme de religieuse, de centralisation du culte. Voilà, Silo doit disparaître, les sanctuaires doivent disparaître, il y a une seule capitale, un seul Dieu, un seul temple, un seul culte à Jérusalem. Voilà, on rapatrie tout ça à Jérusalem, grande réforme religieuse où on va effectivement finalement minimiser, essayer d'enlever l'importance des sanctuaires et grossir le temple de Jérusalem en recentrant tout, le culte là. Et là, il y a une légende, histoire, je ne sais pas. Pendant les travaux du temple, on découvre dans ce temple un rouleau. Un rouleau, le roi, on l'apporte au roi, alors c'est lu une fois, deux fois, trois fois, et finalement le roi le lit et appelle à la repentance. Voilà, on a retrouvé le rouleau le plus ancien, la loi de Dieu, et nous n'observons pas la loi de Dieu, il faut rétablir la loi, la droit et la justice, et le culte envers le Dieu unique, et la fidélité à Dieu avec la justice envers le pauvre et l'orphelin. Alors, ce rouleau, qu'est-ce que c'est? On va le faire identifier par une femme, la prophétesse Ilkiyahou. Et cette femme, elle vient du nord. À Jérusalem, dans les années de Josias, là c'est vers 622, donc un siècle après, on a des gens du nord qui étaient venus habiter, qui s'étaient réfugiés, évidemment. Devant la poussée de la Syrie, au dernier moment, il y a toujours eu des gens malins qui sont partis et qui sont venus se réfugier au sud, en emmenant quoi? En emmenant leurs textes. Et probablement déjà ces ébauches de récits autour de Moïse et de loi de Moïse qui vont former le cœur du Deutéronome. Et donc ce rouleau dans le temple, alors il y a des gens qui sont un peu plus méchants que moi, ils ont peut-être pas tort, qui disent il a découvert le rouleau ou il l'a fait écrire, ou ils l'ont écrit à ce moment-là. En tout cas, c'est bien des traditions qui viennent du Nord, des traditions de Moïse, et cette loi a été considérée comme effectivement la loi de Dieu, et c'est très probablement, déjà à l'époque de Josias, le cœur de notre Deutéronome. Les chapitres 12 à 25 du Deutéronome n'ont peut-être pas beaucoup changé depuis. Le tour a été réécrit, assemblé avec le discours de Moïse, mais le cœur du Deutéronome, la loi, elle remonte probablement à cette époque-là et peut-être un peu plus haut aux traditions du royaume du Nord. En tout cas, on a toujours reconnu au scribe deutéronomiste le fait qu'il portait les traditions du Nord et les traditions de Moïse. Alors ça, c'est un grand moment d'espoir, de renouveau religieux, etc. Ensuite, les choses se passent mal. Les choses se passent mal, et je vais terminer là-dessus, parce que les Assyriens, si Josias a pu prendre de l'importance, et si on a pu vivre en paix depuis un siècle, c'est qu'à nouveau, la Syrie s'était affaiblie, avec le dernier roi d'Assyrie qui est bien connu, Assurbanipal ou Sardanapal, dont vous avez certainement vu la mort de Sardanapal, peinte par des peintres, je ne sais plus lequel, mais un David ou un Jéricho quelconque, les peintres du 19e font une mort somptueuse à Sardanapale. Bon, en tout cas, la Syrie est en plein décadence parce que, mais c'est les mêmes, il y a des groupes du sud, du sud de la Mésopotamie, qui viennent plutôt autour de Babylone, beaucoup plus au sud. Il y a des groupes qui sont les Babyloniens, qui se sont armés, renforcés, avec des chefs de guerre assez puissants, et qui sont venus prendre Ninive. Ils se sont installés, c'est des cousins, hein, c'est une bagarre entre peuples cousins. Mais il y a eu sans arrêt comme ça, entre le nord et le sud de la Mésopotamie, des prises de pouvoir par les uns et par les autres. Ces Babyloniens sont très combatifs. Eux, ils veulent que le royaume du sud paye tribut, et ils voudraient bien le prendre. Alors, Josias, c'est compliqué, il y a des histoires extraordinairement compliquées à ce moment-là, qui sont racontées dans le livre de Jérémie, parce que c'est Jérémie, le prophète à Jérusalem, qui accompagne toute cette période, d'abord Josias et ensuite ses successeurs. En gros, les rois successeur de Josias, c'est son frère, son fils, d'abord c'est son fils, ensuite son frère, ensuite son petit-fils. Bon, les rois successeurs de Josias vont essayer de contrer la menace babylonienne en demandant de l'aide à l'Égypte. Ce qu'il ne fallait pas faire, parce que en ne payant pas, en se révoltant, en ne payant pas tribut à Babylone. Ce qu'il ne fallait pas faire, parce que l'Égypte s'en contrefiche, elle ne viendra pas les aider, elle agite quelques régiments en disant on va venir, elle n'est jamais venue. L'Égypte, elle est à cette époque-là assez faible, tranquille chez elle, elle ne va pas les aider. Et que, évidemment, ça exaspère les Babyloniens. Qu'est-ce que c'est que ces petits pays qui nous résistent ? Et donc, ils vont jouer un très mauvais jeu. Et c'est pour ça que Jérémie, qui sans arrêt va prêcher, au fond, non pas la reddition, mais la soumission, peut être lu et va apparaître comme un collaborateur. Évidemment, lui, il veut se soumettre, il veut se rendre à l'ennemi, il ne veut pas se battre. On lui tombe dessus à bras raccourcis, Jérémie. Et les rois sont furieux après lui. Et on va le descendre dans un cul de basse fosse où il va risquer de mourir. On va le lier au pilori à la porte de la ville. On va le persécuter parce qu'il dit sans arrêt, soumettez-vous, payez l'impôt, ça va mal finir. Ne faites pas confiance aux Égyptiens qui ne viendront pas. Alors, on peut juger comme on veut l'attitude de Jérémie. En tout cas, l'histoire lui a donné raison puisque finalement les Babyloniens en ont assez. Première prise de Jérusalem en 598 et première déportation du jeune roi, petit-fils de Josias, Jehoiakim, qui a 18 ans à l'époque, qui se rend pour que son peuple ne soit pas écrasé. Il fait un deal avec les Babyloniens, je me rends, on part à Babylone avec toute ma cour et les riches et vous respectez le pays. Donc Jehoiakim va être toujours respecté comme le vrai roi d'Israël, il sera reçu à la table du roi à Babylone. Donc il part. Mais évidemment, sur place, les Babyloniens nomment son oncle en changeant son nom, en essayant d'avoir la main sur lui. Et celui-là, malgré les conseils de Jérémie, continue à se révolter, trafiquer avec les Égyptiens. Et au bout de 10 ans, les Babyloniens qui en ont assez, Nabucodonosor vient mettre le siège devant Jérusalem, un siège certainement assez affreux. Et au bout de 18 mois, c'est la chute de la ville. Et là, on embarque tous les artisans et tout ce qu'il y a d'un peu riche dans la population. Voilà. C'est le début de l'exil à Babylone. Et pendant ce temps, eh bien, Jérémie s'enfuit, il ne veut pas s'enfuir, il veut rester avec son peuple martyrisé sur place, il ne part pas à Babylone, et il va être entraîné vers l'Égypte, et il mourra probablement, il disparaît en Égypte, certainement passablement désespéré. Alors, je termine par la littérature, j'y reviendrai, de cette époque, les grands prophètes, Isaïe, on l'a dit, les petits prophètes Michée et Sophonie, et surtout Jérémie. Vous voyez, on a parlé d'Isaïe et du Deutéronome au nord, mais aussi du Deutéronome maintenant récupéré au sud, et probablement qui commence déjà à être remis en forme, réécrit. Et puis, là, toute la prédication de Jérémie qui accompagne cette période, qui est une période très mouvementée et très dure. C'est sûrement aussi parce que c'est une période avec des grands rois, un moment où on a commencé à écrire l'histoire des rois, les annales, là les annales d'Israël peuvent être mises en parallèle avec des annales assyriennes, il y a des recoupements, il y a des oppositions, mais il y a des recoupements, où apparaissent certainement les premières collections de proverbes et les premières collections de psaumes. Voilà, je m'arrête là puisqu'on est parti en exil. On va se retrouver en janvier en exil à Babylone, mais évidemment prêt à rentrer, et on trouvera le 7 janvier... ces années de préparation, ces siècles même, et surtout le premier et le deuxième siècle, de préparation de ce monde juif qui va finalement ensuite se reconstruire, très vite se reconstruire à Jérusalem, et qui sera le monde juif, passablement chahuté, mais quand même judéen et jérusalémite, où Jésus va naître, lui au nord en Galilée. Ça va ? Et donc on fera l'articulation Ancien et Nouveau Testament. Voilà, est-ce que vous avez des questions ? Et puis je vous libère. Il y a des questions urgentes, ou bien non. Vous êtes saoulés. Bon après-midi et bonne fin de week-end. Bon, vous retrouverez tout ça dans les papiers. Thank you. Au revoir.